hommes, femmes et enfants. Donc, suite de l'article. Avant, entre guillemets, on pouvait rêver de stopper le développement des armes autonomes, susceptibles de tuer sans intervention humaine. C'était avant la guerre d'Ukraine et du Moyen-Orient, avant le boom de l'intelligence artificielle, dont les progrès technologiques considérables sont souvent mis au service de l'industrie d'armement, puis seulement envisagés pour les applications civiles. Pendant longtemps, cette autonomie des armes a été perçue comme une ligne rouge. Dans son livre « The Army of None », l'analyste des technologies de défense Paul Scher a fait le tour des laboratoires de recherche aux États-Unis afin de connaître les avancées en la matière. Un haut responsable américain lui dit « Nous ne souhaitons pas développer d'armes autonomes, mais si les gens d'en face le font, alors nous le ferons. Nous y sommes. » Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les deux armées se sont lancées dans une surenchère d'innovations technologiques, chacune cherchant à dépasser les parades de l'autre. L'Ukraine fait de plus en plus appel à des véhicules robotisés et à des centaines de types de drones pour compenser son infériorité démographique. La Russie a certes l'avantage numérique, mais elle a aussi tourné toute sa machine économique et scientifique vers la guerre. Si l'un se défend légitimement, l'Ukraine, et l'autre agresse, la Russie, l'engrenage de la guerre fait sauter les lignes rouges. Les articles récents du New York Times révèlent que la Russie redessine l'avenir de la guerre en temps réel, produisant des structures de commandement dopées à l'intelligence artificielle et, semble-t-il, en déployant des armes autonomes sans les contraintes éthiques des armées occidentales. Éthique tout à fait relative, puisque l'intelligence artificielle a largement été utilisée par l'armée israélienne pour définir ses cibles dans la bande de Gaza depuis 2023 et par l'armée américaine pour ses bombardements massifs de l'Iran cette année. Nous sommes dans le scénario du livre de Paul Scher. Si ceux d'en face le font, nous ne pouvons pas ne pas le faire aussi. C'est comme cela que tombent les tabous et que des années d'efforts visant à codifier l'interdiction des armes autonomes dans un traité se trouvent menacées. Un énorme pas en arrière pour l'humanité. Une raison de plus de ne pas laisser cette régression devenir la norme malgré la puissance des acteurs de cette folie mondiale. Voilà, j'ai trouvé que cette chronique était tout à fait parlante, effectivement, quand il dit « si ceux d'en face le font, nous le ferons aussi ». Voilà, mais ça, c'est pas du tout un argument entendable. On va changer de sujet, quoique, on parle toujours de droits humains.
Oui.
Et c'est Claire-Lise qui voulait vous parler de l'abolition du code noir.
L'abrogation du code noir.
Pardon.
Donc, en fait, le 28 mai dernier, à l'unanimité, c'est rare, les députés de l'Assemblée nationale ont voté l'abrogation du code noir et des textes ayant réglementé l'esclavage en France. Donc, ça a été voté à l'unanimité. Alors, précédemment, Laurent Panifou, le président du groupe Lyot, avait demandé officiellement le 13 mai 2025 l'abolition de ce texte, en disant « L'heure est venue de se laver de cette ignominie qu'est le code noir au nom de la justice réparatrice ». C'est par ces mots que ce député, Laurent Panifou, président du groupe Lyot, avait demandé officiellement le 13 mai 2025 l'abolition du code noir. Si l'on peut croire que le décret de l'abolition de l'esclavage de 1848 a abrogé le code noir, il n'en est rien. Aucun texte ne l'a formellement aboli, avait alors ainsi insisté cet élu de l'Ariège. Donc du coup, il y a eu un groupe de travail qui a travaillé sur la présentation de ce texte, la proposition de loi, donc qui avait reçu le soutien d'Emmanuel Macron, estimant que le maintien dans le droit de ces textes, quand bien même ils sont sans effet juridique, constitue une trahison de ce qu'est la République. Donc c'est un vote symbolique avant l'ouverture du sensible dossier des réparations, réparation dont je vous parlais déjà il y a un mois dans cette émission. Les députés ont voté à l'unanimité, donc le jeudi 28 mai, pour l'abrogation du Code noir et l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises, jamais formellement abrogé avant 1848. Donc ils étaient 254 députés présents, issus de tous les groupes politiques, et qui ont soutenu cette proposition de loi présentée dans la journée réservée au groupe centriste Lyot, donc Pour rappeler, Lio, ce n'est pas le nom d'un monsieur, c'est Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire.
Voilà. D'accord, merci de la précision.
Mais oui, parce que moi, je ne savais pas oui, au début, tu sais...
C'est un gros politique qui n'est pas très connu.
Donc, elle vise l'abrogation de ces édits royaux datant du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Ces textes faisaient notamment des personnes esclavagisées, des êtres meubles, susceptibles d'être acquis par un maître, au même titre qu'un bien, ou instituer des sanctions en cas de fuite, oreille coupée, marquage au fer d'une fleur de lys, jusqu'à la peine de mort. La proposition de la loi de Max Mathiasin, donc, qui est un député de la Guadeloupe, co-signée par des députés allant de la France insoumise aux Républicains, le Rassemblement national n'a pas été invité à signer, a été examinée à partir de 9h dans l'hémicycle. 25 ans après la loi Taubira, reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, le rapporteur a appelé à poser un acte puissant de mémoire, de justice et de reconnaissance, même s'il ne pourra solder seules les blessures de l'histoire. Son empreinte et son poids sont toujours là. Attendez, j'ai un petit souci avec mon... Voilà. J'ai un petit souci avec mon ordinateur qui saute de ligne. Ouais. Ému aux larmes, après le vote, donc il a salué un pas supplémentaire, un hommage aux hommes et aux femmes, aux enfants mis en esclavage, enlacés par des collègues députés venus à sa rencontre en bas de l'hémicycle. Le code noir n'a plus d'effet depuis longtemps, mais son empreinte et son poids sont toujours là, a aussi soutenu la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, appelant à sortir de notre droit un texte indigne. Les débats donc, ont largement tourné autour de l'histoire esclavagiste et coloniale française et des effets visibles aujourd'hui à travers les inégalités persistantes entre les Outre-mer et l'Hexagone et les discriminations subies par les personnes noires. Que signifie abroger le code noir en 2026 si les Outre-mer continuent d'être regardés, depuis Paris, comme des périphéries lointaines ? Annoncé à la tribune, Emeline Mbidi, la députée de La Réunion et du groupe communiste. Et donc ensuite, il y a eu l'intervention, et on va l'écouter, l'intervention de l'écologiste Sylvie Gustave, qui a aussi beaucoup, enfin moi ça m'a ému son intervention, et j'ai réussi à avoir la bande sonore évoquant la voix tremblante, les souvenirs partagés, par son arrière-grand-mère, Maman Bébel.
Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Pendant des siècles, dans notre pays, la loi a accepté l'indigne. Elle a accepté qu'un être humain puisse appartenir à un autre. Elle a accepté que des enfants soient arrachés à leur mère, que des femmes soient vendues, que des hommes soient marqués au fer, fouettés, mutilés. Et tout cela, la loi l'autorisait, légal. Voilà ce qu'était le code noir. Une mécanique pensée, organisée, assumée, qui chosifiait des êtres humains. Dans ce texte, l'esclave devenait juridiquement un bien meuble. Derrière les registres, derrière les cargaisons, il y avait des vies. Il y avait des mères, il y avait des enfants, il y avait des visages. Des êtres humains que l'on pouvait effacer, couper de leur histoire. Arrachés à eux-mêmes, ces femmes, ces hommes avaient aussi des rêves. Ils avaient une langue, des croyances. Ils voulaient vivre libres. Et cela aussi que l'esclavage a tenté de détruire. Et pourtant, malgré les chaînes, malgré les coups, malgré ceux qui voulaient les effacer du monde, ils ont continué à se tenir debout à travers des révoltes, les marronnages, les chants, les prières. Ils ont continué à défendre cette part d'eux-mêmes que l'esclavage voulait anéantir. La liberté a confisqué leur dignité. La liberté a été confisquée, leur dignité jamais. Et cette force, ils l'ont transmise à leurs enfants, de génération à génération, jusqu'à nous. Je pense à mon arrière-grand-mère, Maman Bébel. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Elle était la petite fille d'Ambroise Gérambe, née en Afrique. puis réduit en esclavage sous le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. Je suis de cet héritage. Mon métissage ne vient pas seulement de l'amour de mes parents ou de mes grands-parents. Il porte aussi la trace d'un monde où certaines femmes n'étaient pas libres. Et derrière certaines histoires familiales, il y a parfois des douleurs que les générations transmettent en silence. Cette mémoire appartient à la France entière. Regardez cette vérité en face, ce n'est pas accuser notre pays, ni parler de repentance. C'est choisir la lucidité plutôt que le silence. Aimé Césaire l'avait prévenu. Lorsqu'une civilisation s'habitue à nier l'humanité de l'autre, elle finit toujours par abîmer sa propre humanité. Parce que le code noir ne s'est pas arrêté aux portes de l'histoire. Le racisme ne disparaît jamais totalement. Il change de visage dans certaines discriminations, dans certaines inégalités, dans certains regards. Aujourd'hui, la République regarde enfin la part de son histoire. Mais ce regard ne devrait pas rester symbolique, car le corps noir nous a pas seulement légué une histoire, il a aussi laissé des préjugés, des inégalités, des imaginaires dans notre société, porte encore les traces. Alors j'espère que les paroles entendues aujourd'hui sauront vivre demain dans notre société. Parce qu'on ne combat pas les héritages de la barbarie uniquement avec des commémorations. On les combat aussi par l'égalité, par la justice, par le respect absolu de chaque être humain. Alors oui, abroger le code noir est nécessaire. Mais aucun vote ne pourra réparer à lui seul des siècles de vie brisées. Et la grandeur d'une république ne se mesure pas seulement à ce qu'elle commémore. Elle se mesure aussi à la manière dont elle protège aujourd'hui encore la dignité humaine. Permettez-moi pour finir de faire une nuance importante. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Je vous remercie.
Voilà, donc c'était l'intervention dans l'hémicycle, et c'est rare quand même qu'il y ait des gens qui prennent la parole avec une telle intensité, du député écologiste Stevie Gustave, qui a pris la parole donc le 28 mai par rapport à l'abrogation du code noir. Sa dernière phrase, nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduit en esclavage. Et donc la dernière partie de cet article qui est paru dans Le Monde, hein, alors pas l'audio qu'on a chopé sur Instagram, mais l'article sur le code noir, c'est un article qui est paru dans Le Monde, et il se termine aussi sur le fait qu'il va y avoir un rapport gouvernemental à venir sur le droit colonial et sur les réparations, parce que effectivement, c'est bien de commémorer, d'abroger le code noir, mais on voit bien qu'il y a quand même encore beaucoup d'inégalités pour les territoires outre-mer, pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, ils peuvent être même privés d'eau. Enfin, c'est vraiment terrible ce qui s'y passe. Et donc, il va y avoir un rapport, et puis peut-être aussi des choses mises en place pour justement travailler sur une certaine réparation de ce qui se passe encore dans ces territoires. Voilà. Donc je m'éloigne de mon texte, c'est pour ça que je bafouille un tout petit peu, que c'est un texte qui est un petit peu long. Mais la vraie question, c'est celle de la réparation financière et matérielle. Donc ça, c'est Bruno Maillard qui pointe du doigt la situation économique et sociale alarmante dans les territoires français d'outre-mer. Le taux de chômage, les problèmes de logement et de santé publique font que ce ne sont pas des territoires comme les autres. On est bien obligé de faire le lien avec le fait que ce sont des anciennes colonies esclavagistes, et que la plupart des personnes qui sont exclues de ces sociétés sont des afro-descendants. Voilà. Et pour ce membre de la Fondation de la mémoire de l'esclavage, donc Monsieur Bruno Maillard, la France est malade de son passé colonial, et les historiens ne pourront pas penser toutes les plaies. Les représentants politiques doivent agir à un moment. Donc, effectivement, agir par rapport à ces inégalités persistantes. Et les récents débats en commission ont souligné les héritages de l'histoire esclavagiste et coloniale française, toujours visibles à travers ces inégalités entre les Outre-mer et l'Hexagone, ainsi que les discriminations subies par les personnes noires. Voilà. Donc, il y a le scandale de la chlordécone dans les Antilles, l'accès à l'eau à Mayotte, la négrophobie qui explose, et a ainsi listé la députée Nadège Abou-Mongoli, évoquant aussi la déshumanisation raciste du maire insoumis de Saint-Denis, Bali Bayayoko. Oui. Voilà. Voilà, donc c'est un article de loi qui prévoit que le gouvernement remette un rapport sur le droit colonial et ses effets de long terme, mais également sur la place accordée à l'histoire de l'esclavage dans les programmes scolaires, dont on ne parle
pas bien, pas assez.
Voilà. Et donc la question des réparations a aussi largement animé les débats. Voilà, donc le vote doit ouvrir sur un chantier et non le clore. Au-delà du travail mémoriel essentiel, peut-il y avoir pardon sans réparation, a annoncé le député de la Martinique, Giovanni William, selon le rapporteur. Voilà.
Merci.
Je trouvais que c'était important de parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée.
Tout à fait. Voilà. Et moi, il y a deux choses que ça m'a évoqué, là, ton intervention et puis la déclaration du député là, qu'on
Stevie.
A entendu, Stevie.
Oui.
C'est quand il dit tout à fait à la fin qu'une société comme qui a élaboré le code noir et qui permet ce genre d'atteinte absolument insupportable aux droits fondamentaux d'une partie de la population humaine, cette société-là, de toute façon, perd sa propre humanité. Ça me paraît. Et voilà, ouais. Ça me paraît fondamental. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, en France comme dans beaucoup d'autres pays, ce sont les anciens propriétaires d'esclaves qui ont été financièrement indemnisés. Ce qui est quand même absolument insupportable, alors que c'était eux les bourreaux. On a indemnisé les bourreaux et pas les victimes. C'est quand même quelque chose qui, quand on y réfléchit, qui laisse sans voix. Voilà, donc ça aussi, effectivement, ça explique pourquoi il y a besoin de réparation. Y compris financière. On va passer tout de suite la première pause musicale. On se retrouve juste après.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif.
Into your mouth what you picked up from the floor. Yeah, but keep stumbling in the weirdest scenes. Warnings sure did ignore and sniffing the carpet floor. Treasures lost in gold, real deep leftover body crowns, cat hair, blueberry gown. Someday the worms will find this board and mature right to the core. Give me my due and more.
To die long when you feel we've gone beneath. I remind you where I've been hiding the keys. I ain't never taking no dumb blind chance again. Until another curiosity tumbles in.
Close there to the bone. Blue as the skies, they just seem to fall. Whenever Badoosie pours, blooming some metaphors. Future costs more than what's left. The vast is long gain of birth, like Theuderick the First. Gathering steam, it seems I'd rather mess it all up before crumbling under the board.
To die long when you feel we've gone beneath.
de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International. Pour ceux qui étaient au festival Ça sonne à la porte il y a 15 jours, une semaine et demie, ça fait pas 15 jours, une semaine et demie, vous avez peut-être reconnu, c'était un des groupes qui est passé qui s'appelle Deluxe, que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert là-bas, et ça m'a bien plu, donc 12 morceaux, effectivement, et ce morceau s'appelle Tom Rakek. Alors Clarlis me disait en aparté, ce ne sont pas des Français.
Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai demandé si c'était un groupe étranger ou pas.
Oui, c'est ça.
Exactement.
C'est ça.
Tu vois un peu la communication.
Mais j'avoue que je n'ai pas été regardé de plus près. J'ai récupéré ce morceau sur YouTube.
Ils ont peut-être choisi de chanter en anglais, mais peut-être. C'est peut-être des purs normands. Je ne sais pas.
Je m'informerai. Je dirai à la prochaine émission. J'en saurai plus sur eux. Bon, comme j'ai la parole, je vais la garder et je vais vous parler d'un sujet qu'on a déjà évoqué dans nos émissions précédentes. Encore une fois, on vous rappelle que les podcasts des émissions sont sur le site de Principe Actif, principeactif.net, à la rubrique Amnesty International. Et ça parle des ventes d'armes de la France à Israël et qui participent visiblement au génocide à Gaza. Alors voilà ce que dit l'article. Le gouvernement français assure que ne pas vendre d'armes à Israël. Pourtant, un rapport recense plus de 525 cargaisons d'équipements militaires expédiées entre octobre 2023 et mars 2026. Alors, la France ne vend pas d'armes à Israël. Nos livraisons sont connues. Des composants strictement défensifs, notamment pour le dôme de fer, système de défense israélien qui intercepte les roquettes et missiles de courte portée, et d'autres destinés à être réexportés vers des pays tiers. Le 8 avril, sur le réseau social X, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, est monté au créneau pour balayer d'un revers de main les révélations faites par Urgence Palestine, People's Embargo for Palestine et Palestine Youth Movement. La veille, ces trois collectifs publiaient un rapport intitulé « Les dessous des exportations militaires françaises vers Israël ». Il met en lumière 525 livraisons de matériel militaire par des industriels hexagonaux vers des industries israéliennes de défense et aérospatiale. Une dizaine de sociétés françaises sont mentionnées, dont Thales, Cermat, ADR, M France, Eurolynx, Simulec, Hutchinson. Elles auraient livré aux filiales Debit Systems, premier fabricant d'armes israélien, des composants optiques et de batteries destinés au système au sol et à l'avionique, des maillons de munitions pour fusils et mitrailleuses, ou encore des capteurs pour véhicules blindés. Ainsi, en décembre 2025, le groupe de métallurgie Aubert et Duval a exporté vers Israël des tubes à canon, des éléments a priori destinés au Sigma 155 ROM, une artillerie utilisée uniquement par l'armée israélienne pour des tirs de précision longue portée sur le sol libanais, alors même que la France prétend ne pas exporter d'équipements risquant d'être utilisés à Gaza, en Cisjordanie ou au Liban. Le rapport examine aussi le rôle des aéroports français censés exercer leur devoir de vigilance sur de telles exportations et donc vérifier qu'elles ne contreviennent pas au droit international, notamment au traité sur le commerce des armes. Le groupe ADP, anciennement Aéroport de Paris, est pointé du doigt pour avoir laissé transiter au moins 117 cargaisons de composants du chasseur furtif F-35 en provenance de bases militaires américaines et à destination de la base israélienne de Nevatim via Paris-Charles de Gaulle, entre avril et octobre 2025. Or, le F-35 Lightning II est un avion de combat utilisé par Israël à Gaza et au Liban. Et les pièces expédiées incluent un système de ciblage électro-optique permettant une vision infrarouge pour repérer les cibles ou encore un casque de réalité augmentée pour les pilotes doté d'un écran affichant les objectifs. Pas vraiment des armes défensives. Pour Patrick Bouvray, président de l'Observatoire des armements, ces révélations rappellent qu'il est urgent de mettre en place une commission parlementaire pour établir enfin un état des lieux transparent sur la coopération entre la France et Israël, tant sous l'angle des importations que des exportations. Voilà. C'est un nouveau point, effectivement, sur un sujet dont on vous a déjà parlé, mais les ventes d'armes, visiblement les ventes d'armes de la France à Israël, alors qu'Israël commet un génocide, continuent. Voilà. On va changer de sujet,
oui.
Mais on va rester pas en France, mais en Europe.
Oui.
Et c'est Clarlys qui va vous parler, mais elle va vous le dire elle-même.
Je veux rester dans le monde même, parce que oui. Je vais vous parler de la Journée mondiale des réfugiés, donc qui sera célébrée le samedi 20 juin sous le thème « Solidarité avec les réfugiés ». Donc la Journée mondiale des réfugiés a lieu chaque année, le 20 juin, pour honorer la force et le courage des personnes contraintes de fuir leur pays en raison de conflits ou de persécutions, et offrant une période prolongée pour des activités éducatives, de plaidoyer, de bénévolat et de collecte de fonds. Donc il y a la Journée mondiale des réfugiés et il y a la Semaine mondiale des réfugiés sur la même période, qui permet justement diverses manifestations. Donc le thème de 2026, hein, cette année, c'est la solidarité avec les réfugiés en lien avec le 75e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Donc cette convention établit le droit de demander l'asile et le principe de non-refoulement, garantissant que personne ne soit renvoyé dans un lieu où sa vie ou sa liberté serait menacée. C'est important parce que je vais en reparler dans la deuxième partie de mon intervention sur ce qui se passe actuellement en Europe. Donc la semaine des réfugiés, et voilà mon ordinateur, il m'embête encore, adopte également le thème « Courage », mettant en avant la résilience et la détermination des réfugiés qui reconstruisent leur vie après un déplacement. Donc, les objectifs de la Journée mondiale des réfugiés, en fait, c'est sensibiliser le public aux réalités vécues par les réfugiés et aux causes profondes des déplacements forcés. Promouvoir la solidarité et l'inclusion des réfugiés dans les sociétés d'accueil. Mettre en lumière les contributions positives des réfugiés dans leur communauté. Encourager des solutions durables, telles que le rapatriement volontaire, la réinstallation ou l'intégration locale. Et donc, pour participer, il y a plusieurs actions qui sont possibles, hein, pour montrer son soutien. Alors, porter le ruban de la solidarité du Haut Commissariat aux réfugiés et inviter ses proches à faire de même. Partager des photos et messages sur les réseaux sociaux avec le hashtag, hashtag with refugees. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Je te vois sourire.
En anglais, c'est refugees, effectivement, ouais, mais bon, il n'y a pas de problème.
Faire un don pour soutenir le travail du Haut Commissariat aux réfugiés auprès des réfugiés. Donc, vous pouvez effectivement faire un don. Et aussi participer à des événements locaux, des ateliers éducatifs ou d'autres types d'activités ou de journées. Donc, d'habitude, nous, avec le groupe Amnesty Évreux, on fait une émission spéciale Fréquence Droits Humains sur le thème de la Journée mondiale des réfugiés. Cette année, on était un petit peu pris par le temps, puis nos amis de la radio aussi, puis on a laissé filer le temps. Et